Bonsoir, comme le Père Benoît vient de l'annoncer, nous allons nous mettre devant le Seigneur pour nous laisser guider par lui durant ces jours, cette retraite, et particulièrement continuer à invoquer l'Esprit Saint, celui que nous allons implorer encore avec plus d'insistance à partir de la fête de l'Ascension de la semaine prochaine. Mais déjà dès maintenant, essayons de demander à cet Esprit Saint de renouveler notre relation avec lui et d'une manière tout à fait particulière, de nous aider à comprendre ce qu'il a déjà réalisé en nous. Nous l'avons déjà reçu le jour de notre baptême. Nous l'avons reçu d'une manière sacramentelle dans ce qu'on appelle la Pentecôte du chrétien, qui est le sacrement de la confirmation. Alors, cette retraite va nous aider justement à nous rappeler, pour mieux approfondir, les grâces reçues à la confirmation, pour ceux qui ont été confirmés. Ceux qui n'ont pas encore été confirmés, eh bien, ça va être peut-être une occasion justement de se poser la question, si il n'est pas grand temps de se préparer pour accueillir ce don de Dieu qui est l'Esprit, l'Esprit Saint. Alors, je me permets de lire simplement un paragraphe du catéchisme catholique qui nous dit quels sont les effets de la confirmation, et ces cinq aspects différents constitueront en fait les thèmes des enseignements qui commencent ce soir, qui vont donc nourrir notre prière durant cette retraite en ce début du mois de mai. Il nous est dit ceci: la confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale. C'est au numéro 1303. Vous pouvez noter ou enregistrer ça quelque part. Et vous qui êtes chez vous, chers auditeurs de Radio Espérance, vous pouvez chercher paisiblement dans le catéchisme 1303. Qu'est-ce que c'est que cette croissance et approfondissement de la grâce baptismale? Premièrement, la confirmation nous enracine plus profondément dans la filiation divine, qui nous fait dire Abba, Père. Deuxièmement, elle nous unit plus fermement au Christ. Troisièmement, la confirmation augmente en nous les dons de l'Esprit Saint. Bien, évidemment. Quatrièmement, elle rend notre lien avec l'Église plus parfait. Et cinquièmement, la confirmation nous accorde une force spéciale de l'Esprit Saint pour répandre et défendre la foi par la parole et par l'action en vrai témoin du Christ, pour confesser vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais éprouver de la honte à l'égard de la croix. Ce sont les paroles très claires, hein, et très percutante. Alors, nous pouvons nous laisser bousculer par cet enseignement de l'Église. Cet appel peut être nouveau que l'Esprit veut nous adresser à chacun et chacune d'entre nous maintenant. Alors, ce soir, je vais me contenter simplement pour introduire un peu à ces méditations, à essayer de voir un tout petit peu qu'est-ce que c'est. Le premier aspect, l'enracinement plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire Abba Père, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Alors pour cela, je me permets de vous donner plusieurs citations d'un petit article qui a été écrit par Madame Marie-Anne Vanier dans une revue, un cahier, Croire, qui date du mai-juin 2015. Et le titre de ce cahier, c'est « Le Père encouragé encourager l'envol. Alors, c'est sûr qu'au moment où nous entendons parler de la filiation divine, on se dit tout simplement que nous sommes invités à reconnaître en Dieu notre Père à tous. Et appeler Dieu Père, eh bien, c'est quelque chose peut-être de courant pour nous aujourd'hui, mais ce n'est pas si simple, peut-être pour certains surtout, eh bien, de comprendre et de vivre surtout une véritable relation avec Dieu comme avec un vrai Père. Et le mot Père qui vient de notre langage voilà, humain a été utilisé par Jésus lui-même d'ailleurs. Appeler Dieu Papa, c'est quelque chose. C'est Jésus qui nous met devant ce Dieu qui est un Père pour nous tous. Donc du coup, qui nous transforme hein, en ses enfants, et c'est-à-dire qui fait de nous des frères et des sœurs, tout simplement. Hein, c'est cela que ça veut dire. Or, qu'est-ce que c'est que cette paternité qui nous est offerte? Est-ce qu'il s'agit de rejeter notre père biologique? Sûrement pas. Mais ce qui est sûr, que cette paternité divine change complètement notre vie et nous introduit dans une transformation personnelle de toute une vie, en fait. Parce qu'on va se rendre compte petit à petit qu'être enfant d'un Dieu qui est Père donne une immense consolation et une immense paix et sécurité. Alors, c'est bon pour nous tous hein, de prendre le temps pour nous situer devant lui-même et peut-être lui demander de purifier toute idée qui est fausse hein, de lui. Or, pour cela, c'est justement nous allons nous laisser guider par l'Esprit Saint. Et nous allons voir pourquoi c'est lui qui nous révèle qui est le Père, qui nous montre comment Jésus a vécu cette intimité avec son Père. Alors, premièrement, tout le monde peut se poser la question qui est Dieu, et donc se faire toutes sortes d'idées de lui. Mais ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est écouter surtout la façon dont lui s'est révélé à travers l'Écriture, la Bible. Et donc, premièrement, dans l'Ancien Testament, même si ce nom Dieu comme Père n'apparaît pas très 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 souvent, c'est important de prendre certains passages comme ça où ce langage hein, humain hein, a permis justement à tout un peuple de découvrir que ce Dieu qui le guidait, eh bien, le faisait d'une manière très simple et très profonde. Et le peuple d'Israël appelait Dieu son Père, surtout dans le sens d'une justement une filiation adoptive, parce qu'un jour, eh bien, ce Dieu a voulu rassembler ses enfants, les appeler, les élire, faire une alliance avec eux, et donc leur donner la joie de vivre en tant que ses enfants, comme étant créés par lui, comme étant aussi protégés par lui, guidé par lui. Donc, dans l'Ancien Testament, cette idée de la filiation eh bien, suppose justement cette élection de Dieu. C'est par pur choix de Dieu que tout un peuple devient enfant, fils et fille hein, de ce Père. Il ne s'agit pas donc d'une génération, hein. C'est pas dans le sens ou comme dans des autres mythologies, hein, d'autres religions, on pensait que certaines divinités donnaient carrément naissance à des êtres qui vivraient sous la terre. Eh bien non. Une fois que Dieu a créé ses enfants pour le peuple d'Israël, eh bien ces enfants sont choisis pour entrer dans une relation comme des enfants par rapport à leur père, mais d'une manière, donc, dans ce sens, d'une adoption hein, que le père voulait leur faire vivre. Et c'est pour cela que beaucoup d'images des prophètes sont très parlantes dans ce sens, ou certaines prières hein, qui sont très claires, tel ou tel personnage biblique qui s'adresse à Dieu en disant « Tu es notre Père ». Mais concernant le Nouveau Testament, c'est en effet avec la venue de Jésus, qui seul est Dieu et homme, bien que nous avons pu comprendre que cette filiation adoptive prend un sens beaucoup plus profond. Et Jésus nous l'a dit plusieurs fois, hein, nous l'a révélé, quelle était cette relation entre lui et son Père. Alors, dans cette chapelle, nous avons l'habitude d'écouter, d'entendre, de méditer souvent cette parole de saint Matthieu, chapitre 11. « Tout m'a été remis par le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Père, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » On voit ici une véritable intimité entre le Père et le Fils, qu'on peut comprendre quand on lit les évangiles. Et si vous voulez, vous pouvez compter le nombre de fois que le Père, le nom du Père est évoqué dans le Nouveau Testament. 170 fois. 170 fois, dont 118 fois dans le seul évangile de saint Jean. Il suffit de se rappeler de l'évangile d'aujourd'hui, de cette fête de Philippe et Jacques, où Jésus le dit clairement, hein, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et Philippe qui lui demande « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et la réponse de Jésus, vous l'avez entendu hein, ou lu, comment ça se fait, Philippe, que depuis le temps que je suis avec vous, tu n'as pas compris que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Cette relation entre Jésus et le Père, eh bien, nous permet à comprendre justement qu'est-ce que c'est que cette paternité de Dieu. Donc, c'est plus que cela, une véritable nouveauté, enfin, quelque chose d'extraordinaire que Jésus nous fait vivre aussi, surtout quand il appelle son Père Abba, qui veut dire Papa en araméen. Et nous avons là aussi l'habitude de venir ici pour leur sainte et entendre cette prière que Jésus adresse à son Père dans le jardin des Oliviers. Vous pouvez lire en Marc 14, verset 36, où il appelle ainsi « Papa ». Papa. C'est un mot qui exprime une immense tendresse que Jésus ressent de la part de son Père, y compris dans ces moments de grande souffrance, d'agonie. On comprend quelle est et combien est grande cette proximité entre Jésus et son Père. C'est parce que Jésus veut nous révéler justement un visage humain de son Père, dans cette relation unique qu'il a avec lui. Quelqu'un qui est extrêmement proche, et extrêmement bon et doux, Papa. S'il le fait ainsi, si Jésus parle devant ses apôtres de cette manière, c'est justement pour leur révéler ce grand mystère. Comme il le dit, hein, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, mais aussi celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, nous ne devons pas nous dire ce sont des secrets que Jésus ne veut pas nous dévoiler. Au contraire, et c'est ainsi qu'il le fait. Alors, à un moment donné, nous le savons, il a enseigné aux hommes d'entrer eux aussi dans cette filiation, dans cette intimité avec le Père, notamment quand il leur a enseigné la prière Notre Père. Et on aura, je vous dirai tout à l'heure quelques mots là-dessus. Alors, l'intention de Jésus, c'est justement cela, hein, de montrer que le désir de Dieu, le Père, c'est de donner, d'introduire tous ses enfants, en fait, dans cette filiation, dans cet amour plein de tendresse. Alors, le saint Paul l'explique dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8, et puis aussi en Galates, le chapitre 4, que nous pouvons appeler Dieu aussi Abba. Pourquoi? Parce que nous avons reçu en nous son propre esprit. Et c'est pour cela que nous commençons, voilà, je dirais, cette préparation à la prière de renouvellement de la présence de l'Esprit en nous à travers cet enseignement. C'est que nous demandons déjà dès maintenant à l'Esprit Saint de nous conduire, de nous introduire dans cette intimité. Et je vais vous permettre de vous lire ce texte de saint Paul dans l'Épître aux Romains. Tous ceux qu'animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif. Esprit de fils adoptif qui nous fait crier, qui nous fait nous écrier, dit saint Paul, Abba Père. L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. C'est-à-dire que ce que le Père a fait pour Jésus, ben, il le fait pour nous. Il lui a donné son Esprit Saint, il nous le donne à nous aussi, et de la même manière que Jésus s'est retourné vers lui avec un cœur plein d'amour, avec une pleine confiance dans cette tendresse d'un papa, et bien nous aussi, à cause de cet Esprit Saint en nous, et bien nous pouvons nous tourner de la même façon hein, vers ce Père et l'appeler ainsi, et lui montrer notre propre amour. Et en plus, on doit aussi comprendre que le Christ qui est le premier de toute créature, comme le dit saint Paul encore dans l'Épître aux Colossiens, il est aussi l'aîné d'une multitude de frères. Ça veut dire que un de la Trinité, c'est-à-dire Jésus, le Fils du Père, nous fait entrer nous aussi dans ce mystère d'amour du Père. Il marche devant nous, il nous entraîne derrière lui. Et par sa résurrection, justement, eh bien, il nous communique aussi cette même vie qu'il a reçue lui-même de Dieu. Cette présence, cette puissance de l'Esprit Saint qui est en nous. Alors laissons-nous guider par cet Esprit vers une meilleure connaissance de ce Dieu qui est Père, qui se révèle ainsi à nous, comme quelqu'un qui est plein de bonté et de tendresse. Alors, pour passer à une deuxième étape de notre méditation, nous avons l'occasion non pas seulement de connaître donc cette proximité de Dieu le Père envers nous, mais aussi de comprendre un peu plus qui il est. Comment il est lui? Quelles sont ses caractéristiques de ce Dieu qui est Père? Alors nous, on le sait très bien, c'est bien de se le rappeler. Sa principale caractéristique, c'est la surabondance d'amour qui a une force telle que nous ne pouvons nous la représenter, tellement elle est grande, hein, et qui a amené sûrement à parler de sa toute-puissance. On voit Dieu comme quelqu'un de très puissant, tout puissant. Or, il s'agit de la toute puissance de son amour à lui. C'est bien de se le rappeler cela. Or, cette surabondance d'amour du Père se manifeste évidemment tout d'abord par la création. Et donc, ce n'est pas par hasard que nous, quand récitons le credo, on commence ainsi. On exprime notre profession de foi au Dieu qui est paix et créateur hein, de tout l'univers. Voilà. C'est vraiment la grande nouveauté hein, que le christianisme, à travers l'enseignement des pères, de l'Église et puis les conciles, ont voulu annoncer par cette confession de foi. Le Père, c'est un créateur. Aujourd'hui, on peut aussi regarder un peu autour de nous et on voit bien que les sciences, que ce soit l'astrophysique ou la biologie moléculaire, font des recherches de toutes sortes pour savoir qui est le créateur de l'infiniment grand, mais aussi de l'infiniment petit, minuscule. C'est ce qu'on appelle le microcosmos. Eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, évidemment que la science n'arrive pas nécessairement et immédiatement à reconnaître cet acte créateur. Cependant, il se pose la question, tout homme scientifique, qui est en vérité à lui-même, la question de l'origine, du principe. Alors, d'autre part, nous comprenons, en tant que chrétiens, que ce Dieu qui est Père, eh bien, il ne crée pas tout seul. L'œuvre de la création, il la réalise avec, comme dit saint Irénée par exemple, à travers ses deux mains qui sont le Fils et l'Esprit Saint, qui coopèrent également. Ce qui donc nous permet de comprendre que Dieu le Père n'est pas solitaire, mais qu'il est un de la Trinité, le principe hein, de cette vie éternelle. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qui est absolument spécifique au christianisme, hein, qui donne l'originalité par rapport aux autres religions monothéistes. Il est le seul à être un monothéisme trinitaire. Ce christianisme que nous confessons. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois personnes égales qui vivent en communion. Le Fils et l'Esprit Saint nous font connaître ainsi le Père qui demeure invisible. Et alors ici, un autre aspect important, tout en essayant d'accueillir ce don hein, qu'il veut nous faire, nous sommes invités à respecter totalement et à reconnaître son mystère radical, sa radicale transcendance, hein, comme le dit Grégoire de Nazianze dans une de ses prières, qui s'adresse au Père en disant « Ô toi, l'au-delà de tout ». L'au-delà de tout. Tout ce que l'on peut dire du Père restera toujours limité et même inadéquat, car il est au-delà du temps et de l'espace et de toute catégorie philosophique, théologique. Voilà. Alors, parfois, les artistes représentent cette présence mystérieuse du Père par un trône qui est vide. Pour nous dire, voilà, c'est pas que Dieu est absent, mais il est un mystère. Et cependant, il n'est pas pour autant inaccessible, car justement, comme on vient de le voir, mais il s'est approché de nous par son Fils, et plus que cela, il nous invite à être introduit dans ce mystère qui est la communion d'amour entre les trois personnes. Et c'est justement là, pour faire un pas de plus, que Dieu n'est pas seulement manifesté, n'a pas seulement manifesté son amour pour les hommes par la création, mais aussi par la nouvelle création, qui est justement cette œuvre de la rédemption de son Fils, hein, dans laquelle nous avons été créés, recréés en fait, en Jésus. Et bien c'est lui qui nous a transformés dans les enfants de Dieu. Alors évidemment que cette formule, on l'entend tout le temps, ça peut être quelque chose de très usé ou même mécanique, et on n'y fait pas beaucoup attention. Mais ça vaut la peine de prendre un peu de temps et s'arrêter devant ce grand mystère. Comment est-ce que ce Dieu, l'infiniment grand, le tout autre, peut-il faire de nous ses propres enfants? Et comment est-ce que c'est possible que lui qui est infini, il prend un visage humain dans son Fils. Qui m'a vu, a vu le Père, dit Jésus. Alors, saint Jean essaie d'expliquer cela, hein, de le redire, par exemple dans sa première lettre, chapitre 3, les premiers versets. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Être semblable à Dieu, être divinisé. Ben, ça vaut la peine de prendre le temps, encore une fois, pour réaliser cela d'une manière, d'une nouvelle manière, en fait. Alors, est-ce que ce langage, pour avancer, pour aborder notre point, est-ce que c'est crédible de parler d'un Dieu qui est Père, de le dire autour de nous, comme ça? Alors, certains psychanalystes, peut-être, vont nous traiter ou taxer de manque de maturité ou des gens complexés. Ceci étant dit, le pape François, durant une de ses catéchèses, donc, je vais vous dire deux, trois mots, eh bien, il a fait comprendre quand même que c'est important d'utiliser ce langage-là. Parce que dans la vie de tout enfant, la présence du Père est absolument nécessaire pour se construire, parce que le Père, justement, représente la force, la sérénité, l'amour. Et en plus, ce que nous pouvons comprendre justement à travers la présence et l'action de l'Esprit-Saint en nous, c'est que justement, ce Dieu que nous nommons Père n'est pas un grand inquisiteur ou quelqu'un qui est tyran. Mais surtout, comme on vient de le voir, il est un Dieu d'une infinie tendresse, qui a voulu tout partager par amour, qui nous a tout donné par amour et qui nous invite à être ses fils dans son Fils Jésus. Et c'est ainsi qu'au moment où nous prions la prière Notre Père, que Jésus lui-même nous a donnée, eh nous avons l'occasion de parcourir ce chemin d'un dialogue tout simple avec lui, d'entrer donc dans une relation personnelle. Alors nous savons bien que les trois premières demandes nous orientent justement vers cette gloire de Dieu, le Père qui est dans les cieux, et les quatre dernières se rapportent essentiellement à notre vie pratique de tous les jours. Alors, je ne vais pas vous faire maintenant l'interprétation, l'explication de toute cette prière, mais en la prenant paisiblement pour la méditer, eh bien, nous pouvons nous laisser éclairer justement par l'Esprit Saint, qui prie en nous, parce que nous ne savons pas prier comme il faut, dit encore saint Paul, et qui nous dit quelque chose de ce mystère de Dieu. Et comme encore saint Paul nous le rappelle, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous apprend à découvrir de plus en plus cet amour, cette infinie tendresse du cœur de notre Père. Pour terminer, bien sûr, la prière nous aide à approfondir, à entretenir de plus en plus notre relation avec Dieu, notre Père à nous tous, mais aussi, c'est important de regarder aussi le témoignage que nous recevons les uns des autres, ou que nous pouvons nous donner les uns aux autres, concernant cette image de Dieu que nous pouvons vivre, que nous pouvons aider à comprendre certains d'entre nous, nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas. Et dans ce sens, je vous invite aussi de prier, peut-être ce soir de manière particulière, les jours qui viennent aussi, pour tous ceux et celles qui ont peut-être des blessures par rapport à la présence de Père dans leur vie. Mais aussi d'une manière, je dirais plus insistante, demandons au Seigneur de donner la joie à tous ceux qui sont pères, physiquement, qui ont une famille, eh bien de retrouver leur vocation de paternité envers leurs enfants. pouvons prier pour nos pères à nous. Bon, certains sont peut-être décédés, et bien nous pouvons aussi les confier au Seigneur. Mais surtout aujourd'hui, quand cette image, cette idée du Père et bien, n'est pas très claire, ou quand le Père est complètement absent, ou qui représente quelque chose de très mauvais dans la tête de beaucoup, eh bien, que l'Esprit Saint éclaire, voilà, ceux et celles qui accueillent ce témoignage ou qui doivent le donner, pour qu'ils soient vraiment des images du Père, des cieux. Et pour cela, je vous propose aussi de chercher, hein, si vous voulez, dans les épîtres, les actes de Vatican, un enseignement que le Père Pape François a donné le 4 février 2015 dans une audience générale à Rome, en expliquant quelles sont les 7 qualités d'un vrai Père. Je vais simplement les énumérer, mais en même temps, ce sont comme des intentions de prière que je vous présente ici, pour demander à l'Esprit Saint de donner, voilà, ces grâces, hein, à ceux et celles qui doivent être, pour ceux qui les entourent dans leur famille, cette image de Dieu le Père. La sagesse, la maturité, la proximité à ses enfants, aussi à son épouse, c'est-à-dire la mère des enfants. La patience est essentielle, dit le pape François. La magnanimité aussi, une grande bienveillance. La fermeté est attendue. Et enfin, le Père doit être un homme de foi. Sans la grâce de Dieu, les pères se découragent, dit le pape François. Eh bien, tournons-nous vers cet Esprit Saint qui nous conduit vers Jésus, qui nous révèle le Père. Confions-lui aussi, voilà, tous ceux qui reçoivent cette vocation, hein, à la paternité. Demandons aussi que chacun d'entre nous se tourne avec un cœur beaucoup plus confiant vers ce Dieu qui se fait tout proche de nous et que nous pouvons appeler Papa. Merci.